Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en ce début de semaine, avec évidemment toujours beaucoup d'actualités.
Face à tous ces rapports que nous avons reçus, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun.
La CAN 2019, loin du Cameroun désormais, la décision annoncée vendredi soir par le président de la CAF met un point final à un long et triste feuilleton pour la plus grande tristesse des Camerounais. À qui la faute, doit-on se demander du côté de Yaoundé? Nous nous le demanderons ici aussi. Et la CAF aura-t-elle le choix d'un autre pays d'accueil pour organiser la grande fête du football africain désormais à 24 équipes? C'est une question donc qu'on se posera aussi dans Radio Foot. Des Gunners vainqueurs du North London Derby, une équipe d'Arsenal impressionnante face aux Spurs de Tottenham et de retour dans le Big Four. Unai Emery semble être le successeur qu'il fallait à Arsène Wenger, mais où s'arrêteront les Gunners? Le suspense se termine, H-6, et dans 6 heures, le lauréat brandira son ballon d'or. Alors qui, pour succéder au duo Messi-Ronaldo, pourrait-il encore l'emporter, l'un de ces deux personnages? Ou les finalistes de la Coupe du Monde représentent-ils la relève? Radio Foot reviendra ce soir pour évoquer le vainqueur 2018. Ce sera à 21h10 en temps universel. Mais d'ici là, nous avons donc des sujets sur le grill et nos camarades pour en parler sont déjà là. Carlos Bianchi, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes là aujourd'hui et après vous allez disparaître quelque temps, c'est ça?
Et je vais prendre un
River Boca, c'est à Madrid maintenant, pourquoi vous partez?
Oui, mais il me manque beaucoup plus
le soleil argentin,
la
c'est
famille,
ça
la famille.
Hervé Penaud, là aussi notre confrère de l'équipe, bonjour Hervé.
Bonjour à tout le monde, et puis là moi je me sens comme en famille, donc je reste.
Ouais,
et
puis je vous vois bien en blanc, là aujourd'hui vous jouez à la neutralité.
Neutralité absolue.
À vos côtés, Sega Diallo est là, bonjour Sega.
Bonjour Annie.
Et il y aura aussi un autre collègue de Guinée, hein, vous étiez dans le Café des Sports vendredi. Puis Salim Bomgali qui arrive d'une seconde à l'autre. Radio Foot, c'est parti.
Bah moi je suis déçue, complètement déçue, je sais même pas quoi dire. En fait nous on attendait cette CAN dans notre pays, on était tellement émerveillés.
Oui, je pense qu'avec le recul de cette CAN, le Cameroun devrait porter plainte.
Ça fait mal, je le savais pas, je sors du travail, on m'annonce une nouvelle comme ça, ça fait mal. Bon moi j'ai pas de mots à dire, je suis décevant vraiment.
Je suis Camerounais, ça me va très mal au cœur, malgré tous les efforts que nous avions fournis. Ayant reçu les équipes qui venaient pour contrôler les travaux d'avancement sur les infrastructures, bon, ça me surprend aujourd'hui. Il est bien vrai, bon, on va continuer à travailler, on ne serait pas fatigué. Si Dieu voulant, on aura toujours une CAN à organiser.
Il s'appelle Onlove et le rappeur camerounais, vous l'avez entendu, a été très réactif pour concocter ce cri du cœur d'une nation encore sous le choc, sans doute, de la nouvelle tombée vendredi soir. Le Cameroun qui est dessaisi de l'organisation de la CAN car les travaux sont jugés par les experts de la CAF et bien trop en retard pour être donc à l'heure le 15 juin prochain. Cette Coupe d'Afrique que les Lions indomptables devaient défendre à domicile, évidemment, les champions d'Afrique en titre, hein, ils l'avaient remporté au Gabon en 2017, en janvier 2017, février d'ailleurs, ne pourront donc le faire avant d'aller du côté du Cameroun voir les réactions. Hervé et Sega, j'aimerais vos commentaires sur cet événement qu'on a beaucoup commenté sur RFI durant tout le week-end, grâce notamment à Olivier Pron.
Oui, bah, on savait de toute façon qu'il y avait une incertitude sur la possibilité que cette CAN se déroule au Cameroun. La mission d'inspection est allée là-bas.
Il n'y en a pas eu qu'une.
Il y en a eu plus. Il y en a eu beaucoup. Mais la dernière devait être un peu la définitive, celle qui devait donner le ton, savoir si le Cameroun serait capable d'organiser cette CAN ou pas. Alors je comprends que les Camerounais soient ultra déçus. Ils ont fait d'énormes efforts. Il ne faut pas oublier qu'il y a un emprunt obligataire qui avait été levé hein, pour finaliser certains travaux durant cette CAN. Donc l'argent a été dépensé, des travaux ont été faits. mais visiblement pas suffisamment. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que c'est pas très grave que ça ait lieu 2 ans après. Vaut mieux être prêt, vaut mieux que tout soit fait dans les normes, et même si c'est 2 ans plus tard, et puis qu'on ait une Coupe d'Afrique dont on se rappelle, parce qu'il ne faut pas qu'on se rappeler d'une Coupe d'Afrique pour les mauvaises raisons, il faut toujours s'en rappeler pour les bonnes raisons. Moi, je suis persuadé que le Cameroun organisera une super Coupe d'Afrique des Nations. Il lui fallait un peu de temps. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas s'endormir maintenant et se dire, puisque c'est dans 2 ans, logiquement, c'est ce qui va se passer. Alors, je sais qu'il pourra y avoir des recours, mais on s'est bien rendu compte que les recours seront assez faibles. Mais effectivement, c'est vrai que c'est dur. Mais ces 2 années-là, elles doivent permettre, en s'y mettant tout de suite, de régler tous les problèmes qui peuvent encore subsister aujourd'hui dans le dossier camerounais et ainsi être prêt fin d'année prochaine, début d'année suivante et après organiser une CAN de très très haut niveau. Et je suis sûr que c'est exactement ce qui va se passer avec le Cameroun.
Séga Diallo, tout à l'heure, je disais que c'était la fin d'un triste feuilleton parce qu'il y a eu plusieurs épisodes et notamment au fil de ces visites et on se demandait si le Cameroun serait encore maintenu plus qu'on ne se demandait s'il serait dessaisi en fait.
Pour certains initiés, je pense que c'était connu. C'était connu que la CAN n'allait pas se passer au Cameroun parce que d'entrée, le retard accumulé avait poussé la CAF à se poser des questions. Et ces questions-là n'ont jamais trouvé de réponse. C'est vrai que le Cameroun a fait des efforts. Ils ont, comme Hervé l'a expliqué, emprunté de l'argent, ils ont fait des travaux. La décision, ce qui aurait pu changer les choses, c'est que tout soit prêt 6 mois avant. C'est très rare que ça arrive. Il y a un problème fondamental qui est venu se greffer à ça, c'est la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et je pense que la CAF ne le dit pas clairement, mais cette situation a beaucoup plus joué que l'avancée des travaux. C'est vrai qu'il y a des travaux qui auraient pu finir une semaine ou 2 semaines avant, et la CAF n'était pas prête à assumer ces problèmes-là. Mais je pense que cette décision, elle ne date pas de l'Assemblée, de la dernière réunion. Elle a été entérinée à la dernière réunion.
On se souvient d'ailleurs des mises en garde régulières du président Hamad, et notamment dès le mois d'août dernier. Alors on va aller du côté du Cameroun où nous attend Jean-Bruno Tagne, notre correspondant. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Ami, bonjour à tous.
Jean-Bruno, on a entendu quelques Camerounais tout à l'heure qui s'exprimaient en début d'émission, qui étaient dès vendredi soir sur l'antenne grâce à Joël Wadem. Mais moi, j'aurais voulu savoir une chose. Aujourd'hui, quelle est la réaction des Camerounais? Est-ce qu'ils ont toujours le sentiment que le ciel leur est tombé sur la tête ou il y a une certaine résignation, voire un espoir de bientôt l'organiser?
Ah non, la déception est toujours très grande dans l'opinion camerounaise. Tout le monde pratiquement est déçu. Il y en a beaucoup qui estiment qu'il faudrait attaquer la CAF auprès du tribunal arbitral du sport pour obtenir l'organisation de cette compétition. Globalement, il y en a qui disent que c'est une grosse injustice parce que, évidemment, le Cameroun avait beaucoup mis d'espoir dans l'organisation de cette compétition, surtout que ça date de 72, la dernière fois où le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a une partie des Camerounais qui jugent la décision de la CAF tout à fait normale et prévisible au regard de l'avancée des travaux et également de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et beaucoup donc qui en profitent pour demander que des têtes tombent parce qu'il y a eu quand même une certaine incompétence quelque part entre bureaucratie, l'appât du gain et beaucoup d'autres choses qui ont plombé l'évolution des travaux sur le terrain et qui nous ont amené le Cameroun à perdre l'organisation de la CAN 2019.
Est-ce qu'il désigne, je dirais, un responsable, ces Camerounais? Est-ce que pour eux, il y a quelqu'un qui a plus failli que quelqu'un d'autre?
Alors, disons que la presse aujourd'hui balance un certain nombre de personnalités. C'est notamment un certain nombre de ministres qui intervenaient de près ou de loin dans la préparation de cette compétition. Bon, évidemment, on ne va pas reprendre ces noms ici, mais je dis que des noms sont avancés et il faut également reconnaître que beaucoup crient au complot. Beaucoup estiment que Hamad en veut au Cameroun et les déclarations parfois intempestives de Hamad n'ont pas milité en sa faveur. Vous vous souvenez, Annie, il y a très longtemps que Hamad avait dit même à Dick Lobe, le Cameroun ne serait pas prêt. Il y a bien longtemps qu'il avait dit cela. Ensuite, il y a les inspecteurs de la CAF qui sont venus ici. Et chaque fois, après leur visite, ils faisaient des déclarations très enflammées pour dire oui, le Cameroun est très avancé. On n'a jamais vu ça nulle part dans la préparation du groupe d'Afrique des Nations. On en avait d'ailleurs parlé. Et il y a encore quelques temps, Hamad lui-même est venu au Cameroun avec flanqué de Samuel Eto'o. Mm-hmm. Il a rencontré le président de la République et au sorti de là, il a fait des déclarations qui ont donné l'impression aux Camerounais que la CAN était dans la poche. Lorsqu'il dit par exemple que, écoutez, moi je reçois des rapports alarmants de certains Camerounais qui ne veulent pas que vous organisiez cette compétition. Je suis venu moi-même de l'aéroport jusqu'au palais de l'Unité. Je n'ai vu aucun nid de poule sur la route alors que les gens m'ont dit que cette rue est jonchée de nids de poule. Et donc voilà, nous n'avons aucun plan B. Bref, il a fait des déclarations un peu intempestives, soit parfois pour rassurer le Cameroun, soit parfois pour inquiéter le Cameroun. Donc il a régulièrement soufflé le chaud et le froid. Et aujourd'hui, les Camerounais en veulent à mort à Hamad.
Oui, évidemment. Hervé, on le comprend d'autant que dans le contexte, ce matin, il y avait pas mal de questions d'auditeurs dans l'émission de Juan Gomez qui allaient dans ce sens. C'est-à-dire, est-ce que parce que le président Hamad a succédé à Issa Hayatou, à cette époque-là qu'avait été désigné trois pays organisateurs, on s'en souvient, hein, pour les trois prochaines CAN. Est-ce que il y a des maladresses qui peuvent laisser penser ça?
Non, c'est pas parce qu'il a succédé à un Camerounais qu'il en voudra au Cameroun. Ça, faut tout de suite enlever ça de l'esprit. En revanche, je trouve effectivement qu'il y a eu une communication qui a été désastreuse. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, ce qu'il a dit par moment, ça n'avait ni queue ni tête, ça n'avait pas de sens. Et ça a mis à la fois parfois les Camerounais dans l'embarras, parfois ça les a un petit peu
rendu euphoriques.
Ouais, ils sont sentis un petit, disons, mieux dans leur peau. En revanche, il a tout de suite dit, et ça c'était quand même intéressant, il fallait l'écouter, quand en 2017 il y a le fameux symposium au Maroc sur le football camerounais, d'entrée il dit attention, il va falloir quand même accélérer les travaux. Et à l'époque, il faut quand même dire une chose, et ça c'est important, rien n'avait été fait, ou presque. Il n'y avait même pas de COCAN. Ah si, il y avait un COCAN vide de sens, avec des noms qui étaient là, qui avaient été balancés, mais qui n'existaient pas réellement. Donc il a fallu se mettre au travail. C'est là où, c'est à partir du moment aussi où il y a eu ces alertes que les Camerounais se sont mis au travail.
Alors, les réactions...
C'est vrai, hein?
Allez-y, oui, tout à fait.
Effectivement, Annie, disons que les alertes de Hamad ont eu le don de bousculer un peu le Cameroun qui traînait la patte. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même se souvenir que ça fait 4 ans que le Cameroun a obtenu l'organisation de cette compétition. Et les alertes qui étaient lancées par Hamad étaient tout à fait normales. Pour dire, faites attention, si vous voulez organiser cette CAN, il va falloir faire des efforts. Surtout que c'est la première CAN que Hamad organise. C'est la première qui va se jouer avec 24 clubs et donc il n'a pas envie de se louper parce que c'est ce qui déterminera certainement la suite de son mandat à la tête de cette institution. Sauf que à un moment donné, il en faisait un peu trop. Il n'y avait pas de cohésion dans le discours de la part de Hamad et également de ses collaborateurs.
Ouais. Alors résultat, eh bien évidemment du côté de Yaoundé et des autorités qui avaient assuré que tout serait prêt à temps et qui, on sait que ça a été important pendant la campagne électorale. La récente campagne présidentielle, et bien que le Cameroun accueillerait enfin la CAN.
Juste Annie, il ne faut pas surinterpréter l'histoire de la CAN par rapport aux élections. Parce que Paul Biya n'avait pas tellement de monde en face de lui. Il a quand même gagné largement, CAN ou pas CAN. Parce que je sais que
Biya a beaucoup servi d'argument. Ça a aussi servi d'argument.
C'est très important. Oui, alors attention, c'est très important parce qu'à titre personnel, j'ai compris que cette affaire sentait le Roussi. Quand Hamad a dit que la décision de la CAF serait rendue après les élections et il y avait des explications comme quoi il ne voulait pas avoir une influence négative sur le processus électoral. Je me suis dit, ok, si la décision elle était positive, il l'aurait donnée immédiatement et que le président Biya en aurait profité. Mais si la décision elle était négative, on aurait pu l'accuser d'avoir influencé négativement le processus électoral, du moins en ce qui concerne le président Biya. Donc je pense que à ce moment-là, Hamad et un certain nombre de notables de la CAF savaient très bien que le Cameroun n'organisera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
D'ailleurs, les commentaires officiels, alors il y en a eu peu, mais le ministre de la Commission de la Communication, pardon,
Communication.
Oui, Issa Tchiroma Bakary a eu un commentaire et voici un extrait.
Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder à la tentation des polémiques stériles.
Voilà, pas de polémique stérile, mais aussi une injustice flagrante, Hervé Séga.
Non, on peut pas parler d'injustice flagrante.
C'est parce qu'il y a beaucoup de victimisation.
Voilà, c'est pas vrai. Là, il faut pas parler d'injustice flagrante. C'est pas vrai. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ils avaient la CAN depuis 4 ans. Mm-hmm. Alors déjà, ils auraient jamais dû accepter une CAN à 24. Au moins, c'est sans doute là le départ de tout le problème.
Le gros problème,
c'est qu'à partir du moment où ils ont accepté cette CAN à 24, alors déjà avec le retard qui s'est accumulé, et heureusement que la CAN a lieu en juin, parce que rappelez-vous quand même qu'au départ, elle devait avoir lieu en janvier. Donc autant vous dire que là, on discutait même pas de CAN.
Tout a changé au mois de juillet l'année dernière.
Il n'était pas possible à disputer en janvier, tu es d'accord, au Cameroun, parce que c'était pas encore terminé, et les infrastructures sont pas encore terminées. Donc évidemment que c'était pas possible. Donc à partir du moment où ça avait lieu déjà en juin, il fallait pas accepter qu'on passe à 24, on fait une compétition pour une compétition à 16, et d'un seul coup, ça devient à 24.
C'est énorme de changer. D'ailleurs, Jean-Bruno, est-ce que c'est pas là l'erreur aussi du Cameroun, c'est de sans négocier finalement, parce qu'ils savaient déjà que il y avait beaucoup de, enfin, ils étaient un peu sur le qui-vive. Comment est-ce que tout d'un coup, finalement, ils acceptent sans négocier, sans transiger, ce passage de 16 à 24, ce qui veut dire des infrastructures plus importantes?
Alors, effectivement, ça a été l'erreur fatale du Cameroun d'avoir accepté que la FCAF modifie les termes du contrat qu'il avait passé avec le Cameroun en passant de 16 à 24 clubs pour la CAN. C'est à ce moment-là que le Cameroun aurait dû dénoncer devant n'importe quelle juridiction le Cameroun.
Maintenant, il ne pourra plus le faire.
Il ne pourra plus le faire. Je pense que ce serait trop facile. Or, à cette époque-là, le Cameroun aurait pu très bien s'en sortir. Et même lorsque le Cameroun accepte d'organiser la CAN malgré tout à 24, il fallait fixer des conditions et demander quand même que les inspections ou alors toutes les autres conditions soient un tout petit peu adoucies. Et au lieu de quoi, les Camerounais ont bombé le torse, ont dit on est prêt, on est capable d'organiser une CAN à 24 et aujourd'hui on se rend bien compte que c'est compliqué. Alors pour dire un mot, en ce qui concerne la réaction du gouvernement, il faut dire qu'en ce moment, c'est un peu chaud pour les membres du gouvernement. On sort d'une élection présidentielle, il y a un remaniement ministériel qui est attendu et tout. Quel que soit le bout par lequel on peut prendre cette affaire, qu'on parle d'indulgence, de complaisance, de complot, tout ce qu'on veut, il y a eu des défaillances dans la gestion du dossier du Cameroun pour l'organisation de telle Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, de nombreux Camerounais prennent la parole pour demander que des têtes soient coupées, que des responsables soient désignés et sanctionnés. Et on se souvient du triste épisode de la CAN 1972 qui avait entraîné un certain nombre de personnalités en prison qui avaient également été coupables d'un certain nombre de légèretés dans la conduite de cette affaire-là. Donc, lorsque le ministre parle d'une injustice flagrante, et il a même dit quelque chose de très, très important qui, moi, me laisse interrogateur. Il dit « Le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés sans le respect d'une certaine éthique ». Alors, lorsqu'il parle d'une certaine éthique, je ne sais pas de quoi il parle.
Ça fait rire Hervé Penaud. Séga, c'était là aussi peut-être ce changement d'amplitude, disons, de la CAN, et puis un manque d'anticipation.
Je veux remettre les choses dans les contextes parce que Hamad arrivé face à un Camerounais qui l'a battu, le Cameroun était reclus. On le sait dans le système du football de la CAF. Donc les décisions, les propositions qui étaient là par rapport au changement, le Cameroun seul n'aurait pas pu contester. Maintenant, à leur corps défendant, ils auraient pu demander des allègements ou en tout cas une planification dans le cadre de cette organisation. Mmh. Discuter au moins avec la CAF et anticiper les choses. Que ça soit du côté de la CAF, que ça soit du côté des officiels camerounais, je ne peux pas comprendre que personne n'ait anticipé pour informer l'autre et dire, écoutez, à ce niveau-là, ça ne peut pas se faire. On va faire l'annonce à ce moment-là. Mais officiellement, sachez, vous pouvez demander le report parce que vous ne l'aurez pas. C'était la moindre des choses à faire pour le président Hamad parce que il ne faut pas oublier que c'est de la géopolitique. Derrière, il y aura des conséquences, que ça soit au niveau de la CAF, que ça soit au niveau de la géopolitique locale, c'est certain.
Mais il faut faut simplement pas croire que parce que Ayatou était camerounais, il mettait toujours en avant le Cameroun. Ça, c'est une erreur, hein, je pense, parce que ça, il a pas toujours privilégié le Cameroun dans son travail en tant que président de la CAF. Faut quand même lui reconnaître ça.
Une dernière question pour vous, Jean-Bruno. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on reviendra tout au long des prochains jours avec les candidatures. Mais est-ce que le Cameroun serait content, entre guillemets, si en 2021, il organisait la CAN? Parce que, en plus, on va en parler ici, mais ça déplace le problème. Ça déplace le problème puisque la Côte d'Ivoire a été désignée pour 2021.
Alors, justement, c'est une idée qui fait déjà... florestent dans les réseaux sociaux au Cameroun, y compris également dans les médias classiques. Beaucoup estiment qu'il y aurait eu, mais c'est vraiment, ça relève apparemment du fantasme, qu'il y aurait eu un arrangement avec la CAF pour organiser la CAN de 2021. Sauf qu'en même temps, on a vu également dans certains médias ivoiriens, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 qui a déjà lancé ses travaux. Donc là, ça doit négocier ferme. Par contre, il y a pas mal de Camerounais qui se contentent serait bien d'une CAN en 2021 à condition que cette fois-là, on soit vraiment irréprochable.
Oui, alors du côté de la Côte d'Ivoire, les informations et les dernières informations qui nous parviennent, la fédération ivoirienne n'a pas été contactée. Non. Elle reste silencieuse pour le moment. Elle dément en tout cas avoir été informée d'un possible glissement de date. Voilà pour ce qu'on sait. Un de nos confrères qui est sur place dit que de toute façon, le stade d'Abidjan effectivement avance, mais il en manque 4 encore et on vient de poser les premières pierres, donc peut-être qu'il y a aussi du souci de ce côté-là.
Juste une petite chose, il est, enfin pour moi, à mon sens, il est obligatoire, il est obligé que le Cameroun récupère la CAN assez rapidement. Vous ne pouvez pas avoir fait de tels investissements, parce que c'est vrai que tout n'est pas prêt, mais ils ont dépensé un argent énorme. Donc à un moment,
énorme.
Il faut quand même que les gens s'en rendent compte, il faut que la CAF s'en rende compte, donc il est logique de repousser. Franchement, pour les Ivoiriens, je suis un peu j'ai le même raisonnement que pour les Camerounais. Je ne suis pas certain que ce soit complètement prêt en 2021. Si vous avez 2 ans de plus, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, autant aller d'abord dans un pays où vous êtes sûr que tout va bien fonctionner, première fois 24, grosse exposition, des changements de date. Et après, on organise tout à fait au Cameroun, Côte d'Ivoire, et on verra Guinée par la suite. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être obsédé, à mon avis, hein, par cette histoire de date. C'est qu'il y a eu beaucoup de frustration parce que, comme il y avait eu aussi la parole du président de la République, des choses comme ça, on avait l'impression qu'il y avait une forme d'humiliation. Il ne faut pas le prendre comme ça.
Et le manque de management, c'est ça.
Et c'est gars. En plus, même si les infrastructures ne servent pas pour une CAN tout de suite, mais elles peuvent aussi servir au football camerounais. Je veux dire, les Camerounais, ils vont s'en servir de ces stades-là.
Oui, mais des stades de cette envergure-là, ce n'est pas pour les matchs de championnat, ni des matchs
de
Coupe d'Europe. Voilà.
Donc,
Bon.
Ouais. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne des éléphants blancs avant l'heure.
Salim Boumgali. Ouais.
J'avais juste un mot parce que j'ai discuté avec plusieurs Camerounais il y a quelques jours, justement lors de l'annonce officielle de la CAF. Et eux me disaient surtout, parce qu'on a évoqué les défaillances évidentes des dirigeants, notamment au Cameroun, mais qu'ils avaient honte. Ils avaient honte de ce qui se passe. Ils avaient honte presque de dire qu'ils étaient Camerounais, entre guillemets. Je dis entre guillemets, parce que eux, ils le prennent pour eux.
C'était la réaction notamment de Patrick Mboma sur Twitter qu'on a pu lire. Hein.
C'est ça.
Sa grande déception, lui, en tant que sportif.
Et eux, en tant qu'habitants, justement, qui attendaient d'accueillir ça depuis de nombreuses années, Hervé l'a suffisamment dit, ça a été annoncé depuis plusieurs années. Et au final, à quelques mois simplement, on vous retire ce petit gâteau. Alors certes, ça va être repoussé de 2 ans ou 4 ans pour que ce soit bien fait. Mais ça, le fait d'avoir retiré ça, ça fait mal au Cameroun.
La petite chose qui reste en bouche et qui est un peu gênante, voilà, pour dire la vérité aussi, je peux tout à fait le comprendre côté camerounais, on a l'impression que voilà, les dés étaient pipés. Voilà. Parce que pour beaucoup de gens, de toute façon, ça allait être donné au Maroc ou à un autre pays et pas au Cameroun. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus complètement se victimiser, il faut mettre tout à plat et regarder aussi les erreurs que chacun a faites.
Pour faire jaune, ils sont montés à 24 clubs et pays.
Ils ont voulu faire comme l'euro. C'était la logique de l'euro.
C'est énorme, 24.
C'était un des arguments d'ailleurs de campagne.
Déjà, on s'ennuyait avec les cannes à 16. Je ne sais pas comment on va faire.
Mais ça donne des voix quand même. Hein. Plus il y a d'équipes, plus il y a pays, plus il y a de voix au moment où on vote pour un président de la Fédé.
Plus tu fais jouer les pays, et moins tu montes le niveau.
Ah oui, c'est le bon. Ça, c'est sûr que ça va baisser.
Merci beaucoup, Jean-Bruno, d'avoir été en direct avec nous. Merci pour ces dernières informations. Et évidemment, on continuera à évoquer ce sujet, puisque à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement encore quels sont les pays candidats pour éventuellement organiser cette compétition en juin prochain, c'est-à-dire à peu près dans 6-7 mois. Merci beaucoup, Jean-Bruno. À bientôt.
Merci Annie, à bientôt.
À bientôt. Juste deux petits mots encore sur l'Afrique pour terminer. D'abord, les filles, un bravo aux filles. Je sais que vous aimez bien le football féminin, Salif Bongali. Décidément, Nigeria rime avec Cannes puisque elles se sont imposées. Troisième titre consécutif, neuvième consécutif. Mais ça a été dur quand même, au tir au but.
C'est ça, le Nigeria, alors elles avaient réussi le plus dur, notamment en demi-finale face au Cameroun. On en parlait la semaine passée, je me disais, peut-être que face au Cameroun, ça peut être délicat. Au final, elles ont réussi à le faire. Et puis en finale, elles ont eu quand même des petites difficultés, mais voilà, c'est en même temps, c'est la meilleure équipe féminine d'Afrique, donc c'est pas une surprise au final.
Elles seront à la Coupe du Monde qui se déroulera en France en juin prochain avec l'Afrique du Sud et donc le Cameroun qui a terminé troisième. Puis un autre petit mot, les autres vainqueurs du week-end, les joueurs du Raja de Casablanca, le club du Maroc qui a remporté la Coupe de la Confédération malgré sa défaite 3-1 face au Vita Club à Kinshasa. Il s'en est fallu de peu, ces gars, pour que finalement ce Vita Club réussisse. On se disait c'était une mission pratiquement impossible, il a peut-être manqué du temps de jeu.
Oui, moi j'avais dit que ça aurait été difficile que le Raja prenne 3 buts sans en marquer
un. Ils ont été menés 1-0 d'entrée.
Voilà, et ça a tout de suite cassé leur élan. Mais c'est déjà une sacrée performance de revenir comme ça. Il aurait fallu mettre un peu plus et être fort défensivement pour ne pas encaisser ce premier but. Peut-être qu'après tout aurait été possible encore.
Mais un match très très étonnant, hein, parce que Vita a deux occasions au début de match. Je peux vous dire que si ça marque dans un stade des Martyrs en feu, s'il y avait une ambiance phénoménale, tout était possible. Ils prennent un but après sur parce que il faut quand même mettre en valeur le travail des Marocains qui ont vraiment essayé de jouer. Ils ont essayé de sortir la balle proprement et ils mettent un premier but sur le côté gauche un peu faiblard de l'équipe congolaise. Mais après ça, ils ont essayé. Franchement, vous êtes congolais.
C'était une autre équipe celle de Casablanca.
Ça n'a rien à voir. Et oui, supporter du Vita Club, on peut pas avoir honte de la performance de son équipe. À 74, quand ils viennent à 3-1, là tout le monde se dit mais maintenant il en reste deux à marquer. Tout est possible. Ils ont vraiment tout tenté, tout fait. Il a manqué un peu de justesse devant le but, et puis ça fait la différence. Mais le Raja, sur l'ensemble des deux matchs, mérite aussi sa victoire.
Honneur aux vainqueurs et honneur aux vaincus, donc les Dauphins Noirs qui ont réussi à relever la tête devant leur public.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
River Boca, la finale que l'on attend toujours, la finale retour de la Copa Libertadores au pays des conquistadores. C'est ça, hein, Carlos.
Mais c'est bizarre. C'est bizarre.
C'est un peu l'ironie.
Trouver la finale de la Coupe des Champions au Libertadores.
Madrid.
Jouer à Madrid.
Voilà. Hein, vous qui l'avez souvent disputé, cette finale de la Copa Libertadores avec Boca, voire même Vélez. Eh bien voilà, c'est Madrid, Bernabéu, on en parlait vendredi, qui va l'accueillir. Et pour le président de la Comebol, c'est une décision inamovible, hein, c'est-à-dire incontestable. Ça se fera, même si, évidemment, les deux clubs sont pas très heureux. À Madrid, les billets sont déjà en vente. Sur 80 000 places, il y a 7 000 places, celles des socios qui se sont arrachées. Donc, ça devrait assurer un certain succès. Le stade sera-t-il plein ou pas? On ne sait pas, mais vous trouvez l'idée bizarre, Carlos?
Ils auraient bien pu la faire en Amérique.
En Amérique du Sud?
Vous voyez un champion qui s'est joué en Amérique? Vous la voyez? Liverpool, Manchester, je ne sais pas,
la
Bayern
de
Munich.
Non. Sur un autre continent? Ben non.
Il faut qu'il soit sur le même continent. Moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'il fallait. Tu peux aller au Brésil. C'est pas loin au Brésil. À Rio, au Maracana, c'est 3 heures de Buenos Aires.
Belo Horizonte avait proposé son stade, effectivement.
Belo Horizonte, c'est un peu plus loin. C'est à 4h30, mais c'est pas grave. Tu peux aller à l'Aztèque, au Mexique, à un stade extraordinaire.
Rester sur le sol américain.
Aller jouer la finale de la Copa Libertadores en Europe, pour moi, c'est.
Ce qui est en plus, d'autant plus que si ça avait été une décision, imaginons par exemple pour fêter le telle année, tel anniversaire de ci, de ça, on décide de s'expatrier pour une fois. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas pu l'organiser en Argentine, donc on va aller en Europe l'organiser. Comme si on n'était pas capable de l'organiser nous-mêmes. Je comprends Daniel Alves quand il a dit, mais c'est une honte absolue. On peut l'organiser au Brésil, on peut l'organiser. Il y a peut-être même un autre.
Non, le Paraguay, en Uruguay.
N'importe où. en Amérique.
Mais en Amérique.
En Amérique, il faut qu'il soit le match.
Mais alors justement, c'est la question qu'on voulait se poser dans Radio Foot. Est-ce que c'est le futur, finalement, des finales? Alors peut-être, on pense déjà aux Super Coupes, mais qui sont un peu hors sol comme ça, et donc loin du soutien des supporters. On dit que la Super Finale africaine entre Espérance de Tunis et justement le Raja Casablanca devrait se disputer à Doha, au Qatar. Est-ce que, selon vous, Salim, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte?
Vous savez qu'il y a aussi cette rumeur ou cette tendance ou cette volonté, alors à moyen terme de l'UEFA, pourquoi pas, d'un jour délocaliser cette Ligue des Champions, même si aujourd'hui, Ceferin, notamment le président de l'UEFA, dit non, jamais on fera ça.
La finale.
Même si, la finale de la Ligue des Champions, pardon. Même si, dans un coin de la tête de certains dirigeants, l'avoir joué par exemple à New York, un jour aux États-Unis.
Bah, vous avez bien vu la proposition espagnole d'aller jouer.
Excusez-moi, moi je me mets à la place d'un supporter.
Ah, mais...
Je regarde toute la compétition, je paye les places et toute la compétition, et la finale, tu vas la jouer où?
C'est
aux
ça.
États-Unis.
Évidemment.
Moi, je reviens plus te voir. Et moi, si je suis supporter, tous les supporters, il ne faudrait pas qu'ils aillent au stade de son équipe s'il va jouer la finale en New York, à Belo Horizonte ou à Douala, je ne sais pas où.
Sega, pour l'Afrique aussi, ça serait, on parle de cette Super Coupe d'Afrique qui se jouerait peut-être loin. Est-ce que ça peut être, comme dit Carlos, aussi séparé un peu les équipes des clubs?
On a failli avoir,
des supporters,
on a failli avoir une Coupe d'Afrique au Qatar en 2017, je pense. Avant que finalement
2015,
il se ravise. 2015, avant qu'il se ravise.
Oui, quand il y avait la Guinée équatoriale.
Je pense que sur une super coupe, c'est possible, notamment dans la recherche de partenaires
la
financiers.
La France le fait d'ailleurs, souvent la super coupe.
En Chine, aux États-Unis ou en Europe. Mais une finale en tant que telle, on a besoin qu'elle se joue sur le territoire et que les gens qui ont bataillé aussi, parce que les supporters se battent aussi, qui continuent à se battre.
Ça rentre la question économique. Moi, supporter, je n'ai pas de l'argent pour aller à New York ou à Munich aller jouer la...
Mais je vais être clair avec vous, Carlos, c'est pas vous qu'on vise dans ces cas-là en tant que supporter. Là, je veux dire pas là, c'est le supporter qui vit à New York, qui a de l'argent, et c'est lui qu'on va viser. C'est toi qui vas aller dans le stade supporter qui vit déjà à New York. C'est pas toi, supporter de Buenos Aires, qui va te déplacer à New York.
Mais
c'est ça qui est terrible.
C'est ça. Je suis supporter de mon club.
C'est mon club.
Il va, pour question d'argent, il va jouer une finale ailleurs.
Évidemment.
Excuse-moi.
Hervé, est-ce que justement la globalisation du football, c'est ça aussi? Parce qu'on voit par exemple le Classico qui parfois est déplacé pour pouvoir être vu en Asie en même temps qu'il se dispute en Espagne. Cette Copa Libertadores avait été mise à un horaire 17h au départ pour que ce soit 21h ou 20h en Europe et que ça puisse aussi être vu non pas à 2 ou 3 heures du matin.
Oui, mais de toute façon, on y est et on tend vers ça de plus en plus. Évidemment, avec des matchs à 13h, des matchs à 14h, des matchs à midi pour le marché chinois. Mais ce que je dis souvent, on peut pas avoir la fermière,
tout.
Le crémier, la ferme, le tout et tout et tout et tout. À un moment, il y a des choix. C'est-à-dire, on peut pas vouloir l'argent de la Chine et pas leur faire des matchs. On peut pas vouloir...
Les horaires, on peut les changer pour s'adapter à l'Europe. Parce qu'il y a des fois que moi, à Buenos Aires, à 8h du matin, je regarde Manchester United contre Arsenal. Parce qu'ils jouent à midi chez eux. Ça va. Les horaires, tu peux les arranger. Mais tu ne peux pas les jouer comme
pas
tu viens. Il vient de dire là, le Classico. Le Classico, tu vas le jouer où? Tu dois le jouer soit au Real ou à Barcelone.
Mais je crois que de toute façon,
ou à Boca ou à River.
Et c'est inévitable. À mon avis, on tend vers ça. Et je ne savais pas que la Ligue des Champions comptait avoir une délocalisation, mais ça ne m'étonne absolument pas.
L'UEFA, et on se souvient, il y a quelques mois, la Liga qui voulait délocaliser ce fameux Barcelone-Eibar ou Barcelone-Grenache.
C'est pas Séville, non?
Barcelone-Gérone, exactement, qui voulait être délocalisé aux États-Unis.
Pour l'instant, l'UEFA
la Liga
dit non, mais...
avait dit oui, et au final, ça ne se fait pas pour le moment, voir pour la suite. Juste quand même, cette affaire. C'est surtout un coup dur pour l'Argentine même. Parce que l'Argentine, il y a quelques jours, a organisé le G20 quand même. Et en termes de sécurité, tout s'est bien déroulé. En revanche, un match de foot, vous n'arrivez pas à l'organiser. En termes de foot argentin, globalement, c'est un échec.
On a l'impression que ça a pris une autre dimension, et notamment une dimension financière.
Il y a un problème de policiers aussi, parce que ce n'est pas lié au football, mais plus
tout à
la manière dont la police a géré l'entrée des équipes.
Oui, la police, c'est ça. C'est une question de police.
Direction l'Angleterre. L'Angleterre et les Gunners. In the North London Derby, Aubameyang scores! And you can't say that Arsenal haven't deserved it! Ramsey, Aubameyang, oh brilliant! He took it first time, and with devastating effect! Arsenal back in it! un match de fou. Comment on dit ça en anglais du côté de l'Angleterre?
A crazy match.
A crazy match, tout simplement.
Bon, a crazy game.
Crazy game, ouais.
Crazy match.
Le derby de Londres, en tout cas ce week-end du nord de Londres, a été donc si fou qu'il a volé la vedette en Première Ligue. C'était the match à voir, c'est ça, Salim?
C'est ça.
Avec des retournements, hein, puisque tout Tottenham a mené jusqu'à la mi-temps. C'était sur le score de 2-1. Et puis les Gunners, eh bien, les Gunners renversent le match, ouais, l'emportent sur le score de 4-2 et surtout se retrouvent quatrième. Ils reviennent dans le Big Four.
Oui, je rappelle le contexte de ce match. C'est toujours particulier, Arsenal-Tottenham, Tottenham-Arsenal. Les deux équipes se détestent. Les deux stades sont très proches l'un de l'autre dans le nord de Londres. Gagner, c'est toujours particulier, même si ça se rejoue après, 2-3 mois après. Hein. Mais sur le moment, vous êtes le meilleur. D'ailleurs, Arsenal, ce matin, sur son Twitter, a bien fait comprendre le nord de Londres est rouge. Elle n'a pas arrêté d'évoquer cela. Mais c'est vrai qu'hier, le match est allé dans tous les sens, en termes d'intensité, en termes d'émotion. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait dans un match et tout ce qu'on aime. Il y a eu un carton rouge, même, il y a eu un tac.
Pendant tout le match.
Une ambiance. L'Emirates est suffisamment décrié pour avoir une ambiance assez froide. On a rarement vu un Emirates depuis sa création en 2006 être comme ça. Et puis un Aubameyang qui a été exceptionnel. C'est le meilleur buteur de Première Ligue. 10 buts
exactement
marqués en 14 journées. Lacazette, quand il entre en jeu, il change tout.
Il est rentré en deuxième mi-temps.
Ramsey, quand il est entré en jeu, il a tout changé. Les choix d'Emery ont été particulièrement payants. Tottenham peut s'en mordre les doigts parce que vous menez 2-1, vous devez maîtriser, surtout vous mettez le deuxième juste avant la mi-temps, donc vous êtes bien normalement. Ben non, c'est Tottenham qui peut se responsabiliser, qui peut se dire...
C'est la faute de Tottenham ou c'est grâce à...
C'est aussi parce que, encore une fois, parce qu'en seconde période, ils sont montés d'un cran, Lacazette a fait une superbe entrée, mais après, Tottenham s'est laissé aspirer, j'ai presque envie de dire. Aurier, on le dit parfois, il est parfois bon, parfois moyen, parfois mauvais, ben hier, il a été mauvais aussi, il faut le dire.
Alors, celui qui a été bon, donc, c'est Alexandre Lacazette. Même si Pierre-Emerick Aubameyang a 14 buts, hein, il est donc devant
10 buts en 14 journées.
Ah oui, pardon. 10 buts en 14 journées, il est juste devant Agüero. Agüero qui est deuxième seulement buteur actuellement. Et écoutons Alexandre Lacazette évoquer l'entraîneur.
On voit sur le bord du terrain le comportement qu'il a et forcément nous joueurs, ça nous pousse à nous aller encore plus loin. Et les choix qu'il a fait ont été très bons. Et oui, si on peut dire, c'est sa victoire.
Alors, il parle, Alexandre Lacazette, du comportement d'Unai Emery. Je sais que souvent, vous, Carlos, vous taclez un peu les entraîneurs qui sont sur le bord du terrain, qui font beaucoup de gestes, qui crient. Mais Unai Emery, on a quand même l'impression qu'il a insufflé quelque chose de nouveau à ces Gunners, qui, les derniers temps, avaient un peu de mal.
Mais c'est complètement l'opposé d'Arsène.
Oui, oui. Je vous laisse le dire, mais c'est ça.
Oui, c'est complètement... Moi, comme joueur de football, je peux indiquer quelque chose comme entraîneur à un joueur de football. Mais moi, comme joueur de football, je suis en train de jouer au foot, je n'écoute pas l'entraîneur. Je suis sincère, moi. Quand j'étais joueur de football, à l'entraîneur...
Mais quand vous étiez entraîneur, il y a des joueurs qui vous écoutaient quand même.
Oui, mais là, surtout sur un ballon arrêté, ou peut-être que c'est lui qui est à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres... Regardez-vous, quand à la télévision, on dit, oui, il est en train de parler avec telle personne, avec tel joueur, mais c'est l'arrière droite qui est à côté, pas avec l'arrière gauche qui est à 60 mètres. Alors, quand on fait comme ça, toutes ces choses-là, bon. Ancelotti, il regarde le match comme ça, il était 4 fois champion d'Europe.
Ces gars, est-ce que selon vous, Unai Emery a changé quelque chose du côté d'Arsenal? Parce qu'il a pratiquement le même effectif.
Clairement, il a changé. On ne peut pas le reprocher à Emery de n'avoir pas pu amener le PSG là où on l'attendait, en Ligue des Champions notamment. Et ici, puisqu'il fait de bons résultats et qu'on mette ça à l'actif de l'effectif et de la qualité des joueurs. Je pense qu'un entraîneur,
qu'est-ce qu'il a changé ?
Il a trouvé des oreilles pour son projet. C'est-à-dire qu'à Paris, il est arrivé, il y avait trop de contraintes. Il y avait le club, il y a le président, il y a les joueurs qui sont déjà en direct avec. Donc là, il est arrivé, il a expliqué. C'est ça mon projet. Les joueurs ont été impliqués. Et là, ça commence à payer. Maintenant, il faut tenir sur toute la saison. C'est un match référence pour lui. Pour le club même, parce que Tottenham, cette saison, c'est quand même très solide. Mm-hmm. Et gagner ce derby-là était important pour lui. On va voir à la fin de la saison, mais quoi qu'il arrive, il a été meilleur depuis qu'il est arrivé en Angleterre qu'à Paris.
Qu'est-ce qu'il a changé à Arsenal, selon vous, Salim ? dans, peut-être, je ne sais pas, dans la culture, entre les joueurs, changer quelque chose.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de choses qui aient changé que ça sur le terrain. Même si Segal a très bien dit, effectivement, les oreilles sont sans doute plus attentives. Lorsque vous demandez, par exemple, à vos joueurs de presser, là où au PSG, parfois, il y avait certains joueurs qui peut-être ne voulaient pas le faire ou pas plus que ça, et bien là, Arsenal, comme par hasard, ils le font beaucoup plus. Donc déjà, on a quand même cette impression d'avoir des joueurs réceptifs par rapport au discours d'Unai Emery. Et puis, tout simplement, lui a fait et fait quelque chose que, au final, Arsène Wenger faisait extrêmement peu, voire quasiment pas, mettre Aubameyang et Lacazette ensemble. Arsène Wenger, mis à part à la fin, sinon il ne l'a jamais fait.
Là, il l'a réclamé, les joueurs.
Exactement.
Mais il ne l'a pas fait en début de match.
Il ne l'a pas fait en début de match parce que Lacazette n'était pas à 100%. Et ensuite, il l'a mis, et d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Mais Unai Emery a d'ailleurs compris son point de fort, c'est bête, mais c'est offensivement parlant. Sur la ligne offensive, vous avez quasiment l'un des meilleurs duos d'Angleterre. Lacazette et Aubameyang, lorsqu'ils sont en forme, c'est l'un, si ce n'est le meilleur duo d'Angleterre. Après, le point négatif, et ça on aura l'occasion d'en parler dans les semaines à venir, c'est défensivement, où il y a toujours à mon sens des joueurs moindres par rapport à une équipe comme Chelsea, comme Liverpool et autres, mais offensivement, quand ils sont en forme, c'est exceptionnel.
Hervé.
Mais ce qui est intéressant, c'est le travail qu'a pu fournir Emery effectivement avec cette équipe. Là, il y a une forme de patte Emery. Le problème du Paris Saint-Germain.
Parce que les joueurs qu'on avait toujours vus, bon, Aubameyang, il est là depuis quelque temps déjà. Mm-hmm. Lacazette aussi, Ozil là depuis quelque temps. Donc on avait l'impression que les armes, il pouvait les avoir, mais en plus, il sait s'en servir.
Mais parce que c'était aussi un peu la fin d'un cycle avec Arsène.
Ouais, totalement.
Arsène, il a fait un boulot phénoménal à Arsenal. Mm-hmm. Mais c'est comme tout, c'est quand vous êtes resté lui 20 ans en gros dans un club. À un moment, ça va un petit peu moins bien, on vous écoute un peu moins bien, parce que vous vous rendez compte le nombre de causeries qu'il a faites. mais quand vous êtes un de ces joueurs, et vous l'avez depuis 4-5 ans, vous les connaissez pratiquement toutes par cœur, ouais. Même si vous tentez chaque fois de rechanger, parce que 20 ans, c'est beaucoup. Un joueur, il a besoin de temps. Aujourd'hui, surtout avec la jeunesse aujourd'hui, ils ont besoin de renouvellement permanent. Au bout de 2-3 ans, on passe à autre chose, on achète quelque chose, on veut autre chose, on prend une voiture, 6 mois après, on en veut une autre.
Ouais, bah, c'est un peu pareil avec les entraîneurs. Temps,
et surtout, comme les résultats ne suivaient pas, et ben, vous adhérez plus tellement, puis au bout d'un moment, ça se dilue.
Et Ozil, ça fait longtemps qu'il joue pas, Ozil. Hein. Il joue pas très souvent. Hein.
Après hier, il était blessé. En l'occurrence, il s'est fait mal au dos juste avant le match.
Je ne sais pas si lui rentre dans l'attitude qu'il veut avoir à l'entraîneur.
Mais justement, Ozil, ces dernières semaines, il a quand même changé. On le trouve meilleur, il est plus intéressant dans le jeu. Il fait même des pressings. Mesut Ozil fait des pressings.
Oui, parce qu'il joue. Alors, pour aller laver ses habits.
Mais peut-être parce qu'il a physiquement, il est mieux parce qu'il joue plus à la sélection d'Allemagne.
Ah, ça, c'est un fait. Et vous avez raison.
Un petit mot sur l'autre derby qu'il y avait en Angleterre, l'autre derby de la Mersey qui opposait Reds et Toffees. Mm-hmm. Et il s'est achevé, alors on va dire sur le fil, une victoire des Reds qui reste du coup dans la roue de Manchester City. Mais un petit but à zéro, un but d'Origi.
Oui, Divock Origi. On l'avait totalement oublié, on va être honnête avec
ancien
vous.
Ancien joueur de Lille.
Lui qui avait été prêté la saison dernière à Wolfsburg. Il n'avait plus joué avec Liverpool, mis à part une petite apparition en Ligue des Champions il y a quelques semaines face à l'Étoile Rouge. Sinon, il n'avait plus joué avec Liverpool depuis plus d'un an. Donc, il apparaît en championnat. Alors, il entre à la fin parce que sur le banc, il y a peu de cartouches offensives. Et il profite d'une erreur absolument incroyable. C'est l'une des erreurs de l'année de Jordan Pickford. Je pense que si le coach avait été Carlos Bianchi, il virait le gardien direct. Hein, parce que c'est pas possible de faire une telle erreur à la 96e alors que Pickford fait un superbe match. Mais cette balle qui rebondit sur la barre. Et puis, Divock Origi qui est là tout seul, qui a réussi à mettre sa tête. C'est une belle histoire pour lui, mais une erreur absolument incroyable.
Ah, vraiment, il a été aidé, donc.
Ah non, erreur incroyable. Et c'est très drôle, ce de Origi, que je connais bien, parce que je l'avais côtoyé à Lille. Il y a un bon gars, d'ailleurs, un bon petit. Et il a quand même, il est rentré 5 minutes ou 6 minutes, il a réussi à taper la barre et marquer un but. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, il a fait deux actions.
Mais attention, que Liverpool, c'est l'équipe des 4 devant, il marque moins de buts. Hein.
C'est et vrai. Oui, en ce moment, exactement, c'était ça à noter.
Finalement, ils sont forts derrière aujourd'hui.
Firmino, Salah et
tous les trois devant, sauf Mané, et après les autres deux, Firmino et Salah, ils ne sont pas tellement bons. Hein.
On avait vu d'ailleurs hein,
ils
contre...
Ils sont dans le jeu.
Je pense que le milieu qui est actuellement, qui joue, il est moins créatif et pour marquer des buts,
le milieu de Liverpool,
voilà,
il est trop physique. Tout à fait d'accord avec toi.
Milner, Henderson, reste quand
c'est
même.
Physique.
Même si Fabinho de plus en plus joue, Keita.
Il faut Naby Keita.
N'est pas encore à 100%.
Ouais.
Il s'est blessé après
un
début de saison assez intéressant. Il s'est blessé. Et le retour à la compétition se fait difficile, mais à Paris, il a été très intéressant. Et je pensais que sur ce match-là, que Klopp allait pouvoir lui donner la chance de s'exprimer.
Lui, ça peut être le relais parfait.
Il a eu 20 minutes. Il faut rapidement qu'il s'adapte parce que ça va très vite en Première Ligue.
Allez, on passe au dernier sujet de Radio Foot avec un suspense insupportable.
Oh, c'est où est la canne ?
L'équipe de France gagne la Coupe du Monde en général. on va toujours piocher dans l'équipe qui gagne la Coupe du Monde. Et je trouve que ça serait inadmissible si c'est pas un joueur français.
Dans le football moderne, on n'avait jamais connu ça. Quelqu'un qui fait ça à 19 ans.
Potentiel Ballon d'Or ou pas Mbappé?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Sur ce qu'il montre, bien sûr, bien évidemment. Après, potentiellement, qualitativement, pour moi, oui, là, il le mérite déjà maintenant.
Cette année, il est beaucoup plus disputé. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remporter. Et s'il y en a un qui le remporte, je pense que ce ne sera pas démérité, que ce soit un Français ou non. Donc j'espère que ce sera un Français. Ça récompensera notre aventure.
Allez, les Français, Thierry Henry, Eden Hazard, le Belge, et Kylian Mbappé donner leur avis sur ce suspense de plus en plus insoutenable, Hervé, n'est-ce pas?
Ah, plus beaucoup de temps à attendre. Mais espérons que ce soit un Français, effectivement.
Ce soir, c'est la grande fête quand même. L'équipe a décidé de mettre les petits plats dans les grands depuis que l'équipe et l'équipe France Football, bien sûr, puisque le Ballon d'Or, c'est France Football. Football, le magazine, mais c'est le groupe, l'équipe, depuis que France Football et la FIFA n'étaient plus associés pour le Ballon d'Or, c'est la première fois qu'on a une si grande fête. Absolument. Et là, ça sera au Grand Palais.
Au Grand Palais, c'est une énorme cérémonie.
Vous allez mettre votre cravate ou votre nœud papillon?
Alors, je serai sur une émission de télé, donc je ne serai pas là-bas, mais effectivement, ça va être magnifique. Il y a beaucoup de stars attendues, évidemment. Plus de 1000 personnes. Non, oui, je suis ailleurs.
1600 personnes.
1600 personnes. C'est annoncées. Retransmis par 120 télés, donc c'est un truc énormissime. Ils en ont fait un grand, grand show. Et on sent bien, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu le joueur FIFA, le joueur UEFA. Très bien. Mais regardez les joueurs, ils ne sont obsédés que par une chose, c'est le Ballon d'Or.
Ouais, c'est la chance encore
joueur,
de France
c'est
Football.
Le Ballon d'Or. Effectivement, le Ballon d'Or France Football, c'est vraiment l'institution qui marque l'histoire du football sur un prix individuel.
On ne peut pas les donner à la Maradona qui n'a jamais eu parce qu'il ne participait pas.
Bah parce qu'à l'époque, les joueurs étrangers, ça a changé.
Alors messieurs, une question. Est-ce que depuis 2008, Cristiano Ronaldo et Messi sont sur le podium, première marche, que ce soit l'un ou l'autre, l'autre ou l'un, ils en ont gagné chacun un. Est-ce qu'on est à l'année du changement, Carlos?
Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il va gagner Modric, mais moi, j'aurais bien voulu que ce soit Varane.
D'accord. Chacun, je vais vous le demander, vous inquiétez pas. Salim Boumgali.
L'année du changement, et c'est vrai que c'est une année très particulière parce que donc, on suppose
après. Ils sont toujours sur la liste des 30, bien sûr.
Mais bon, il semble, en tout cas, quand on réfléchit bien, de manière objective par rapport à la saison.
Hervé disait qu'il faut changer maintenant, que les jeunes veulent changer.
Mais on suppose ça, effectivement, que Cristiano et Messi semblent un petit peu loin. Et ce qui est pareil surprenant quand même, c'est que si on met les deux à côté, on se dit, on a les Coupes du Monde, ça va être a priori l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde qui va. Enfin, l'un des joueurs de l'équipe en question qui va gagner le trophée. Et quand même, on partira, semble-t-il, plus dans l'esprit également, plus sur Modric. Donc, ça veut dire que malgré le fait de gagner la Coupe du Monde, eh bien, ce serait plus un Modric qu'un Varane ou un Mbappé, par exemple.
Parce que le problème des Français, c'est qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'à un moment, vous votez, vous pouvez pas
c'est
mettre les
trois
Français, donc ça s'annule.
Celui qui l'a gagné plus, c'est Varane.
C'est Varane, de toute façon.
C'est Varane, absolument. Champion d'Europe et champion du monde.
Tout à fait,
Varane. À qui vous le donneriez-vous, Hervé? Est-ce Varane. Que vous avez le droit d'avoir un avis?
Ah bah j'ai le droit d'avoir un avis.
Vous n'avez pas voté?
Ah bah non, j'ai pas voté. Je connais pas le vote de France Football, mais je trouve que Varane, c'est un bon choix.
Tout à fait. Et vous, Salim, vous l'auriez donné à qui?
Varane, un défenseur, enfin, qui aurait pu le gagner de nouveau.
Non, attention, que Cannavaro.
De nouveau.
Et vous, Sega, qui l'octroieriez-vous?
Luka Modric, celui qui va l'emporter.
Pourquoi?
Parce que je pense que gagner la Ligue des Champions et être
finaliste.
Leader d'une équipe comme la Croatie, c'est arriver en finale. Voilà, l'équipe de France est un ensemble, alors que la Croatie, quand même, était une équipe qui était portée sur quelques joueurs cadres avec l'expérience de Modric. Il a fini certains matchs avec des crampes très difficilement, donc ça serait assez judicieux qu'il puisse avoir ce trophée-là.
Et il avait été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde, on s'en souvient, à Moscou, au stade Loujniki, le 15 juillet dernier. Merci beaucoup, messieurs. Et donc, chers auditeurs, on se retrouve à 21h10 en temps universel, juste au moment où le lauréat devrait recevoir son trophée, justement. Merci à tous, merci à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno qui, bien sûr, était à la réalisation.
À bientôt, au mois
de mars.
Au mois de mars.
D'accord, à très bientôt.
Hasta luego.